ça, etc. Ils en avaient marre. Et la grande affaire de Bérégovoy, en fait, il y en a deux. Hein. La première, c'est le grand tournant de la politique économique. Et la deuxième, c'est la transformation radicale des marchés financiers. Parce qu'à l'époque, il faut bien voir que les marchés financiers, c'est que dalle, quoi, en France. Hein. Je veux dire, il y a une bourse, elle était encore au Palais Brongniart, hein, à l'époque. Mais ça vivote, il y a à peine d'activité. Les mouvements de capitaux sont entravés par des contraintes réglementaires. Donc, attends, c'est un autre monde que celui qu'on a maintenant. Et les socialistes décident que... Pour être moderne, il faut se mettre à la finance. Et je veux dire la vraie finance, pas la finance des banques, etc. Parce que ça, les banques, c'est pas bien non plus, si tu comprends. C'est des espèces de grosses bureaucraties bancaires.
Surtout quand elles sont nationalisées.
Alors, elles sont nationalisées, c'est encore pire. Elles s'entendent entre elles parce qu'elles sont pas si nombreuses, donc elles s'arrangent pour facturer le crédit trop cher, etc. etc. Alors là, les socialos ont saisi l'occasion pour dire... Regardez, le coût de financement de l'économie est extrêmement élevé, c'est la faute à pas assez de concurrence dans le système financier français. Conclusion, il faut tout déréglementer pour mettre les banques en concurrence avec le marché financier, qui doit représenter une possibilité alternative pour les entreprises d'aller lever des fonds. C'est-à-dire, jusqu'à présent, elles devaient aller au guichet de la banque, mais les banques s'entendaient entre elles comme la ronce en foire. On leur propose une nouvelle structure qui s'appelle les marchés financiers, où les entreprises pourront se pointer directement pour lever des capitaux et faire la nique aux banques, qui seront bien obligées de ramener leur taux d'intérêt un peu plus bas. Si tu veux, c'est la grande justification de l'époque pour la transformation des marchés financiers. Il faut faire baisser le coût du financement de l'économie française, et en bonne logique libérale, lorsqu'on veut faire baisser les coûts, il faut déréglementer et flexibiliser.
Et donc, que fait Naouri alors là-dedans ?
Alors, Naouri, lui, il est aux manettes. Hein, parce que c'était une transformation quand même qui était explosive. Je veux dire, c'était une révolution des structures du capitalisme français. Et c'est une toute petite équipe autour de Pierre Bérégovoy qui fait ça toute seule dans son coin et qui va livrer le paquet cadeau ficelé. Mitterrand va avaliser et hop, ça va passer comme une lettre à la poste. Et au cabinet de Bérégovoy, il y a deux gars qui s'occupent de ça, qui sont Claude Rubinovitch et Jean-Charles Naouri.
Il y a quoi dans le paquet cadeau, alors ?
Voilà, il y a plein de choses. On a autorisé les banques à devenir intermédiaires sur les marchés boursiers, ce qu'elles n'avaient pas le droit de faire jusqu'à présent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a ouvert les marchés de capitaux français à l'international. C'est-à-dire qu'on a autorisé, bien plus qu'on ne le faisait par le passé, des capitaux étrangers à venir s'investir sur la place financière française. Et c'était ça aussi l'un des buts de la manœuvre, c'était de dire, ah regardez, il y a une concurrence des places financières, une concurrence internationale, New York évidemment est la capitale financière du monde, Londres va faire son Big Bang, les Allemands ne tarderont pas, il faut qu'on suive, parce que sinon on va être décroché, donc il faut que la place financière française, hein, c'est ça, bon. Et la dernière chose, c'est qu'on a créé les marchés de produits dérivés. C'est le truc qui nous fout la merde à grande échelle hein, depuis 3 ans, mais en fait depuis beaucoup plus longtemps. Donc il y a eu le Matif, le Monep, qui est le marché des options, etc. Donc tu vois, c'était un paquet cadeau rondelet, hein, quoi, je veux dire, qui était sous le sapin. Et là, il y avait de quoi satisfaire les rêves les plus fous de toute l'industrie financière française. Donc c'est une énorme architecture de marché là, qui va sortir tout armée.
Moi, il y a un truc que je trouve marrant, c'est que finalement, là, ce matin, on était au Palais Brongniart, à la Bourse, où se déroulait l'Assemblée Générale, le casino.
Oui.
Et ce que tu racontes, là, c'est que finalement, dans les années 80, Jean-Charles Naouri, qui à l'époque était ministre, mais a fait le bonheur de ce Palais Brongniart, où on se trouvait dans les sous-sols ce matin.
Alors ça aussi, c'est cette espèce de proximité quasi osmotique entre la haute finance et l'État. Alors en général, on pense que c'est deux opposés complets. C'est-à-dire la haute finance, c'est le marché, etc. Et si c'est le marché, c'est l'opposé de l'État, qui est caca. Le marché, lui, il est flexible, c'est bien, etc. Donc bon, on pense que c'est deux univers séparés. C'est pas vrai. C'est deux univers qui sont en fait extrêmement proches. C'est-à-dire, historiquement, la haute finance a toujours prospéré à l'ombre de l'État. Tout simplement parce que les tout premiers banquiers étaient les financeurs des dépenses du souverain. Hein, voilà. Bon. Cette espèce de proximité organique va jusqu'au point ultime où c'est l'État qui est le créateur des marchés financiers. Ça, c'est le point vraiment très important. La finance déréglementée, ça tombe pas du ciel. C'est toujours le produit de décisions de politique publique. Cette proximité, elle se traduit par la circulation des élites d'une sphère à l'autre. C'est-à-dire les élites financières se reconvertissent en élites politiques ou administratives qui repartent dans la finance et tournent manège, tu vois. Alors, c'est pour ça que je te disais que Naouri est vraiment un cas type de ça. Parce qu'il devient, aux fonctionnaires, il a des responsabilités politiques, même si c'est officieuse, puisqu'il est membre